Bonjour et bienvenue dans l'AJT du local. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 septembre, 24 septembre ensoleillé évidemment, avec aujourd'hui au menu de cette émission les reflets du cinéma africain. Le festival commence dans une semaine et on fait le point notamment sur trois focus de cette édition. Parmi la cinquantaine de films proposés, ça ce sera avec Audrey Bénès, la directrice artistique du festival. Et puis on va aussi évoquer la saison culturelle du Pays de Cran qui démarre dès ce soir, coup d'envoi de toute une saison plutôt à la coloration musicale, on va dire, imaginée par Camille Nicole. Et puis le dernier épisode de notre série avec les sportifs mayennais de retour des JO de Tokyo, avec aujourd'hui François Pervis qui revient dans le département avec une deuxième médaille de bronze. Mais d'abord, on va faire, comme tous les jours, un petit point sur l'actualité. 80 enseignants en grève hier à Laval, tous étaient mobilisés contre la vision de l'éducation nationale qui fait un pas de plus vers la privatisation de l'école, dénonce le syndicat SNUDI FO53. Avec l'annonce d'Emmanuel Macron concernant un possible recrutement des enseignants par les directeurs d'établissement, les manifestants réclament également une hausse salariale de 180 euros mensuels pour tous les salariés, et notamment les AESH, les accompagnants d'enfants en situation de handicap, qui connaissent beaucoup de temps partiel. Alors que l'épidémie connaît une très légère hausse en Mayenne, les dépistages se poursuivent, notamment à Laval, à la salle du Palindrome, de 9h à 13h, lundi, mercredi et vendredi prochain. À Port-Brié, ce sera sur le parking de la maison médicale, de 9h à 13h, mardi et jeudi. À Mayenne, au parc des expositions, mardi, de 15h à 19h. Et aux mêmes horaires, jeudi, à Château-Gontier, à la halle du Haut-Anjou. Une Mayonnaise qualifiée pour la finale nationale des routiers. La quatrième édition de cette compétition aura lieu en novembre prochain avec Laura Saillant qui travaille pour les transports Guy Robin à Changer. En participant à ce concours, la conductrice de poids lourd veut aussi casser les clichés sur sa profession. Peut-être une quatrième victoire pour les Tangos ce soir. Les footballeurs du Stade Lavallois vont tout faire pour continuer la série après déjà trois matchs gagnés. Ils jouent à Créteil à 19h ce vendredi soir, sans Etondé ni Carlier qui sont blessés, ni non plus Ferraoui toujours suspendu, comme le coach Olivier Frappoli qui regardera le match des tribunes. On connaît les affiches pour le quatrième tour de la Coupe de France les 2 et 3 octobre et elle sera belle notamment pour l'AC Les Châteaux en D1 qui affrontera les Voltigeurs de Châteaubriant, équipe de National 2. AZ quant à lui recevra Saumur, une équipe de National 3. Et puis avant Paris 2024, les drapeaux olympiques seront de passage à Laval demain à l'espace Mayenne en fin de matinée. Les drapeaux olympiques et paralympiques seront accueillis par les élus locaux des 50 collectivités mayennaise labellisée Terre de Jeux 2024. Ils seront accompagnés par une trentaine d'enfants du département. Et puis dans une semaine s'ouvrira le festival des reflets du cinéma africain, festival organisé tous les ans par l'association Atmosphère 53. Mais avec la pandémie, cette édition a été reportée deux fois depuis mars 2020. Autant dire que les organisateurs ont hâte de pouvoir présenter la cinquantaine de films sélectionnés. Difficile pour Audrey Bénès, la directrice artistique du festival, de se limiter dans le choix de quelques coups de cœur. Alors zoom sur les trois focus de cette 24e édition.
Trois réalisateurs qui me paraissent vraiment importants dans le cinéma africain d'aujourd'hui, puisqu'on va pouvoir découvrir le cinéma de Dieudo Amadi, qui est un jeune réalisateur congolais très engagé, qui fait exclusivement du documentaire. Donc c'est un documentariste qui est assez, qui va sur des documentaires assez politiques, qui parle souvent du rapport entre le collectif et l'individu, qui parle de la corruption, enfin voilà, qui aborde plein de sujets comme ça. Et là, il va être là, il est présent pendant le festival et on est très très heureux parce qu'il fait la promotion aussi de son nouveau film qui sort, qui s'appelle En route pour le milliard. Donc il va se déplacer partout en France et on a la chance de l'avoir quand même trois jours avec nous pour le festival puisque c'est un peu notre invité d'honneur, donc on est très très content de l'avoir. Le deuxième focus, c'est le focus sur le réalisateur tchadien Mahamat Saleh Haroun, qui est un grand réalisateur, hein, c'est un des grands noms du cinéma africain actuel, qui était encore en compétition au Festival de Cannes, là, cette année, avec son dernier film, qui s'appelle Lingui, les liens sacrés, et qui va faire l'objet du film de clôture, pour la clôture du festival, donc qui se passera au Vox à Mayenne le 10 octobre. Et donc, ce sera l'occasion de découvrir cinq films de ce réalisateur tchadien, bien. Donc là, on est plutôt dans les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il a commencé à faire ses premiers films au début des années 2000. Et donc là, ça fait une vingtaine d'années qu'il fait des films tous les 3-4 ans. Enfin voilà, c'est un réalisateur qui tisse comme ça une filmographie très cohérente, parce qu'on retrouve vraiment des thématiques communes de film à film et une esthétique commune, mais à chaque fois, il développe des nouveaux sujets, des nouveaux enjeux, et c'est un cinéma tout à fait passionnant. Et le troisième focus, ce sera sur le grand réalisateur, parti trop tôt, Djibril Diop Mambéty, qui est un réalisateur vraiment phare de l'histoire du cinéma. Et je me dis bien l'histoire du cinéma, et pas que du cinéma africain, parce qu'il a fait en fait très peu de films. Mais chacun de ses films était vraiment visionnaire, ouvrait une nouvelle voie. Et d'ailleurs, il le disait, c'était un réalisateur qui voulait ouvrir, commencer le boulot, quoi, commencer à faire des choses nouvelles et originales. Il l'a vraiment fait. Et son premier film s'appelle Tuki Buki en 1968. Puis après, il a fait un film, il a attendu 20 ans pour faire son deuxième film qui s'appelle Yen en 1992. Et après, d'autres films, des moyens-métrages dans les années 90. Chacun de ses films est un petit bijou.
Le Festival des Reflets se poursuivra jusqu'au 10 octobre dans tous les cinémas du département. Chaque place est au tarif habituel et un pass festival illimité est proposé pour 70 euros. Et puis là aussi, il y aura beaucoup de choses à voir dans la saison culturelle du Pays de Cran qui s'ouvre ce soir pour 26 dates à venir dans toute l'année. On va en parler dans 3 minutes, juste après avoir écouté Isia qui fête aujourd'hui ses 31 ans. Alors c'était l'occasion de réécouter ou d'écouter So Much Trouble. We'll be right back. Trouble, Isia dans l'AGT du local sur l'autre radio. 26 dates dans 10 communes, c'est la saison culturelle du pays de Cran qui s'annonce riche mais aussi variée avec du théâtre, de la danse, des marionnettes ou encore un ciné-concert et plusieurs temps forts d'ailleurs en plus de celui-ci autour de la musique. Morceau choisi de cette programmation 2021-2022 avec celle qu'il a concoctée.
Je suis Camille Nicole, chargée de programmation et responsable du service saison spectacle vivant du pôle culture du Pays de Cran.
Ça y est, enfin, la saison culturelle du Pays de Cran peut reprendre, on le sait, après une année compliquée, avec un premier spectacle là aussi proposé avec le festival Les Embuscades.
Oui, on accueille un projet en partenariat avec le festival Les Embuscades, et, effectivement, et avec la compagnie Ocus, avec qui on travaille depuis quelques années maintenant, et qui viendra installer son chapiteau à Cossé-le-Vivien pour nous proposer plusieurs soirées et plusieurs événements sur un petit temps qui sera un peu long de présence de la compagnie. Donc ils viendront notamment avec le spectacle Dédale Palace le vendredi 24 septembre à 20h à Cossé-le-Vivien. Et en préambule, on organisera une soirée d'ouverture gratuite du chapiteau et de rencontre avec les artistes de manière un peu informelle, autour d'un verre, d'un moment convivial pour rencontrer les artistes, reprendre contact avec entre le public et les artistes parce que ça nous a un petit peu manqué sur ces derniers temps. Et puis échanger autour du spectacle et des métiers du spectacle vivant.
Puisque c'est une compagnie en tout cas que vous connaissez bien, que vous accompagnez déjà depuis 3-4 ans maintenant ?
Oui, c'est ça. C'est une compagnie qui est venue sur le territoire la première fois en 2018 pour commencer à travailler sur ce spectacle des Dédale Palace qu'on présentera le 24 septembre et aussi mener tout un tas d'actions de médiation auprès des publics scolaires notamment en préparation à ce spectacle. Donc ça fait quelques années qu'on prépare leur venue. Ils auraient dû venir en 2020 avec la première du Dédale Palace. Ce sera 2021, mais c'est pas grave. On peut les accueillir et c'est une grande satisfaction pour tout le monde.
J'imagine que là, oui, plus globalement, ça fait du bien de proposer une grande programmation, puisqu'il y a 26 dates sur toute la saison qui, normalement, sauf catastrophe, devraient se produire. Là aussi, de pouvoir à nouveau accueillir du public, ça fait du bien.
Bah oui, ça fait du bien. On attendait ça depuis un moment. On a repris un petit peu en juin la saison dernière, mais dans des conditions un petit peu particulières. Donc là, on est vraiment heureux de reprendre dès la semaine prochaine et puis de pouvoir poursuivre cette saison, on l'espère, en tout cas au moins de pouvoir accueillir un peu de public si c'est pas des jauges complètes ou s'il y a des conditions maintenant. On a appris à s'adapter, donc il n'y a pas de souci, on est paré. Mais oui, retrouver le public, retrouver les artistes et reprovoquer cette rencontre entre le public et les artistes, c'est vraiment important et là, ça fait du bien.
Et ça va pouvoir donc redémarrer assez rapidement. Là, cette saison, je l'ai dit, c'est donc 26 dates sur plusieurs communes du Pays de Cran. Il y en a 10 communes qui seront concernées par ça. Une saison, en tout cas, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure lors de la présentation, qui sera assez musicale.
Oui, c'est un petit peu une couleur qui se dégage de cette saison avec pas mal de propositions, soit des propositions musicales pures, soit des propositions qui allient plusieurs disciplines, mais avec de la musique live, donc soit théâtre-musique évidemment, ou d'autres propositions avec plus pluridisciplinaires, avec différentes disciplines qui se mélangent. Donc oui, c'est une couleur un petit peu musicale qui va se dégager cette saison.
Avec des noms aussi qui peuvent parler à certains auditeurs, il y aura notamment Alexis HK qui se produira ici en concert.
Oui, Alexis HK qui viendra avec une nouvelle création, donc on n'a pas encore pu voir le résultat, mais qui va sortir en janvier, donc on accueillera une des premières dates de son spectacle à l'Espace Saint-Clément le samedi 29 janvier. On est ravis de pouvoir l'accueillir sur le territoire.
D'autres concerts aussi qui peuvent s'annoncer sur cette saison ?
Oui, on aura aussi un autre concert dans un autre genre musical, un duo féminin avec Dom La Nena et Rosemary Stanley, la chanteuse de Moriarty pour ceux qui connaissent un petit peu, qui viendront à la salle du FCC à Cossé-le-Vivien le mercredi 10 novembre avec leur duo Birds on a Wire. Voilà pour un concert de reprises tout en douceur et en finesse de musique d'horizons divers, soit de musique d'Amérique latine ou bien de folk anglaise. Elles font des reprises à deux avec un violoncelle, une voix et différents instruments. Voilà, c'est très agréable et à voir, je pense que ça va être une belle soirée.
Une belle soirée, donc là aussi on l'a dit, pas mal musical cette saison. Il y aura aussi tout un programme intitulé La correspondance sous toutes ses formes. Alors, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y aura tout un projet cette année autour de la correspondance avec différents ateliers proposés. Comment est né justement ce projet et comment il va se décliner ?
Alors, c'est un projet vaste, dense, qui a été construit en collaboration entre les trois services du pôle culture, donc la saison culturelle, l'établissement d'enseignement artistique et le réseau lecture publique, autour effectivement de la correspondance. Donc, le point de départ de ce projet, c'est la création de la compagnie Théâtrium du spectacle Émilie Angèle, qui sera proposée en avril 2022 dans le cadre de la saison culturelle à Renazé. Et le deuxième point de départ, c'est le constat d'un public un petit peu plus difficile à toucher sur le territoire de Renazé, où on n'arrive pas forcément à aller avec des spectacles parce que en termes d'infrastructure, on n'est pas toujours, on n'a pas toujours ce qu'il faut pour pouvoir amener des spectacles. Donc on s'est dit un projet d'action culturelle, donc un petit peu parallèle, autour d'un spectacle quand même, mais un vaste projet qui se déroulera toute la saison. Voilà, ça permet aussi de toucher le public différemment. Donc du coup, sa déclinaison, on part du fil rouge d'une création en fait, qui va se passer tout au long de la saison avec auprès de différents publics. Donc on aura tout d'abord un travail d'écriture de texte théâtral qui sera réalisé avec des scolaires et l'autrice jeunesse Sabine Tamizier. Donc il va travailler avec les élèves pour écrire une petite trame théâtrale qui sera ensuite exploitée lors d'un stage théâtre au printemps avec des plutôt collégiens et aussi peut-être des élèves d'école primaire pour voilà, mettre en scène ce texte et aussi mettre en musique ce texte avec des ateliers musique. Et tout ça sera présenté lors de la première partie de la soirée du spectacle Émilie Angèle, qui, je ne l'ai pas dit pour faire le lien avec la correspondance, est un spectacle, enfin voilà, le texte de base, c'est une correspondance entre deux élèves, une jeune parisienne et un jeune québécois qui échangent, voilà, se racontent un petit peu leur vie, leur quotidien, les différences entre les pays et entre les familles. Et c'est très drôle, très fin, on s'attache beaucoup à ces personnages-là. Et voilà, c'est normalement, ça devrait être un chouette spectacle. On ne l'a pas encore vu puisque c'est une création. Mais voilà, donc un beau projet avec et du théâtre amateur et une création professionnelle de spectacle.
Donc là aussi, il y a, et vous l'avez dit, le spectacle et tout l'aspect participatif, en tout cas tout au long de l'année sur ce projet. Ça se retrouve aussi, mais d'une toute autre manière, sur le projet À chaque commune son polar. Ça va commencer en janvier 2022 et c'est pour un autre public.
C'est ça, c'est un autre gros projet du pôle culture, donc avec les trois services encore une fois du pôle culture. Et là, c'est en lien aussi encore avec un spectacle de la saison qui est le spectacle Fracasse qui sera présenté en janvier 2022. Et on invite Nicolas Turon à venir rencontrer les habitants de 10 communes du territoire qui ont été choisies. Alors, c'est pas forcément les mêmes communes sur lesquelles il y aura des spectacles. Au contraire, on a essayé vraiment d'aller toucher un maximum de communes. Et donc, il va rencontrer des personnes qui seront choisies, des associations, des commerçants, des différentes figures ou différentes structures phares des communes sélectionnées. Et à partir de ces rencontres, il va rédiger des polars, donc des petites nouvelles de fiction, mais à partir quand même des matériaux qu'il aura récoltés sur le territoire et avec les personnes rencontrées. Donc chaque commune, chacune des 10 communes, disposera à la fin du projet d'un polar écrit. Qu'elle pourra diffuser, qu'elle pourra partager, que les communes pourront se les échanger entre elles. Voilà, mais c'est vraiment une manière de valoriser les habitants, le territoire, et de donner une petite suite, en fait, une trace de ce qui reste culturellement, et de faire participer les habitants pour qu'ils se sentent impliqués dans la politique culturelle de la communauté de communes, quoi.
Et aussi forcément, j'imagine, qui guide un petit peu toute votre politique tout au long de l'année. Et puis un autre temps fort, là aussi à venir, qui parlera peut-être à certains de nos auditeurs, autour du cinéma, et ça s'appelle le Festival des 37.
Oui, alors le Festival des 37, c'est un événement phare depuis quelques années sur le pays de Cran, qui se déroule en biennale. Donc c'est un événement qui est organisé par l'association L'Autre Vie du Papillon et le CIAS, et notamment les ateliers d'échange sur Cran, qui ont imaginé ce projet de festival un festival de Cannes à petite échelle, un festival de court-métrage où en fait l'idée est de faire participer les participants de l'EDI du Pays de Cran, des ateliers d'échange, pour monter et mettre en scène en fait des courts-métrages qui seront projetés tout au long de ce festival. Et depuis ses débuts, il y a un partenariat qui se développe avec le Pôle Culture, avec l'établissement d'enseignement artistique et la lecture publique, dans différentes actions qui gravitent autour de ces projections. Et cette saison, la saison spectacle vivant s'y intègre également ce projet en proposant deux spectacles qui feront le lien entre cinéma et spectacle vivant. Donc on aura le spectacle Crin Blanc le vendredi 3 décembre et le spectacle Ciné Circo qui est un spectacle qui nous viendra du Chili pour une création qui sera présentée les vendredis 10 et samedi 11 décembre 2021.
On voit que l'idée, c'est pas de rester uniquement sur Cran ou que c'est lui vient, par exemple.
Non, voilà, la vocation, on est une saison culturelle intercommunale, donc la vocation, c'est d'aller graviter, irriguer au maximum, dans la mesure de ce qu'on peut faire, l'ensemble des 37 communes du pays de Cran. Donc cette saison, on va visiter 10 communes, dont des communes qui n'ont jamais pour le moment accueilli de spectacle. Et puis voilà, l'idée, c'est... sur quelques saisons, 2-3 saisons, c'est d'arriver à tourner entre les communes pour vraiment irriguer l'ensemble du territoire et que toutes les communes où c'est possible, on puisse arriver au moins avec un spectacle ou une proposition de médiation, d'action culturelle ou voilà, quelque chose qui culturellement peut impliquer les habitants.
Dernière question, pour le coup très pratique, où est-ce qu'on peut retrouver l'ensemble de la programmation et surtout s'il y a déjà des choses qui nous intéressent, comment est-ce qu'on peut réserver ?
Alors, la programmation est disponible en ligne sur le site du Pays de Cran, www.paysdecran.fr. Il y a un onglet culture, donc où tout est indiqué, toute la programmation est en ligne. La billetterie est ouverte depuis le 7 septembre. Il y a la possibilité de réserver en ligne, donc un lien est sur le site du Pays de Cran, ou bien par téléphone au 02 43 09 19 89, ou bien de venir directement au centre administratif intercommunal de Cran. Donc la billetterie est ouverte du mardi au vendredi de 14h à 17h. Donc on est là pour vous accueillir avec plaisir.
T'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, ou je t'emmène dans la maison des ronchonchons. C'est une maison grise adossée à une mine de sidérurgie désaffectée. On y vient à pied, on a un peu peur. Les gens qui vivent là sont tous de mauvaise humeur. Y'a Jean-Pierre Ronchonchon qui raloche sans arrêt en cherchant la clé de la maison des Ronchonchons. Et Bernard Vénère qui lui crie après: qu'as-tu fait de la clé de la maison, Ronchonchon? Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a perdu un truc. Qu'est-ce que t'en as fait? Si je le savais, il serait pas perdu. Et ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous approchons de la maison des ronchonchons. Jean-Pierre Ronchonchon a retrouvé la clé sous le paillasson de la maison des ronchonchons. Et Bernard Vénère lui dit: ça je le savais ça, tu perds toujours ta clé sous le paillasson, et ronchonchon. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a retrouvé un truc. Je savais où c'était, si tu le savais, pourquoi tu l'as pas retrouvé toi-même? Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mais t'es ronchonchon, toi, t'es ronchonchon, toi. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, nous pénétrons dans la maison des ronchonchons. On a décidé de boire l'apéritif et dans le salon de la maison des ronchonchons. Même la peau de bête semblait de mauvais poil, pas de doute, on est bien dans la maison des ronchonchons. Là, Jean-Pierre Maugréet, en s'arrachant les tifs, constatant excédé le vin sans le bouchon. Et Bernard Vénère lui dit: je te l'avais dit, faut pas que tu t'étonnes, t'achètes ton vin chez Champion. Et Marie-Pierre Grognon, vraiment ça l'énerve quand y'a Bernard qui dit à Jean-Pierre qu'a acheté un truc. T'aurais bien mieux fait d'aller chez Fauchon. Décidément Bernard, il m'énerve, il m'énerve, il m'énerve. Mais t'es ronchonchon, t'es ronchonchon. Toi t'es fâché, toi t'es grincheux, toi t'es ronchon. Si t'es chafouin, fais attention, on va dîner dans la maison des ronchonchons. Il faut une fin à cette sombre histoire, une grande morale à cette petite chanson. Si t'es trop grognard, si t'es trop ronchon, tu passeras ta soirée avec des cons.
Avec des quoi?
Bah des ronchonchons, genre fâché, grincheux, puis ronchon.
Des ronchons quoi?
Bah des ronchonchons, tu finiras par habiter dans la maison des ronchonchons.
Mais des ronchons quoi?
Bah des ronchonchons, du genre fâché, grincheux, puis ronchon.
Des ronchons quoi?
Bah des ronchonchons, tu finiras ta vie comme un ronchonchon et ça t'énerve.
Ça t'énerve,
ça t'énerve, ça t'énerve, et ça t'énerve,
ça t'énerve,
ça t'énerve, ça t'énerve, scrognonieux.
Vous venez d'entendre Alexis HK avec la chanson si bien nommée, hein, avec, vous venez de l'entendre, La Maison Ronchonchon. Alexis HK qui sera donc en concert à Cran, ce sera le 29 janvier. Et on poursuit, et on termine d'ailleurs, puisqu'on est vendredi, cinquième et dernier épisode de notre feuilleton avec les sportifs mayennais qui ont participé aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Lui avait déjà une médaille de bronze obtenue justement aux Jeux Olympiques à Rio en 2016. Il revient de Tokyo avec une deuxième médaille de bronze des Jeux Paralympiques cette fois-ci. François Pervis conclut d'une belle manière donc sa carrière sportive. Après ce dernier défi mené avec le coureur malvoyant Raphaël Beaugilet, encore une autre expérience réussie pour ce cycliste sur piste.
Les Jeux Paralympiques, ça a une saveur très particulière, surtout pour moi, puisque j'ai pas de problème physique comme les athlètes paralympiques. Donc j'étais guide. Donc là, bon, bah, j'ai découvert un univers. Ça reste quand même un univers de sport professionnel. C'était très valorisant pour moi humainement. Et donc, c'était vraiment une très belle aventure parce que j'étais, on va dire, vraiment concentré pendant 20 ans sur mon objectif en tant que valide, sur mes championnats du monde, sur mes Jeux olympiques. Et là, pour cette dernière année, les Jeux paralympiques, j'ai découvert un autre univers, en quelque sorte. J'ai vu des personnes qui étaient mutilées, qui avaient... j'ai vu des gens foudroyés, qui ont perdu des membres. Et ils faisaient comme du vélo. Il y a un coureur, il avait deux bras et deux jambes en moins, il faisait comme du vélo. C'était incroyable. Et donc, beaucoup de respect pour ces gens-là, parce que c'est des gens qui, malgré ce qui leur est arrivé, ils mordaient la vie à pleines dents. J'ai pris une claque, c'était vraiment beau à voir. Rien que pour ça, voilà, c'est beaucoup d'humilité. Ouais, j'ai pris une leçon de la vie, là, franchement. Et donc, oui, c'était des jeux très spéciaux. Finir ma carrière sur une médaille paralympique, c'est riche en émotions, beaucoup de valeur derrière tout ça. Et puis c'était vraiment une aventure humaine extraordinaire. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Ça, elle était unique, cette chance. J'ai cette chance de l'avoir vécue. Et en plus de ça, avoir réussi à gagner avec mon collègue une médaille de bronze. Donc c'est pas rien. Et en plus de ça, cette médaille de bronze fait que je fais partie seulement des 3 athlètes, toutes générations confondues, de tous les sports que comportent les Jeux, à avoir gagné à la fois une médaille aux Jeux Olympiques et une médaille aux Jeux Paralympiques. On n'est que 3 dans toute l'histoire du sport, donc c'est historique. Et donc cette médaille de bronze, elle a bien plus qu'une valeur de bronze. Les missions qui m'ont été données par la Fédération Française du Handisport, c'était d'une, d'accompagner Raphaël, mon binôme, à le professionnaliser, à lui apporter de la rigueur, parce que il s'entraînait que quelques fois par semaine, 2 ou 3 fois par semaine. Là, c'était 2 fois par jour. Il a fallu qu'il s'entraîne 2 fois par jour, qu'il commence à faire de la musculation. Avant, c'était un coureur endurant, et il a fallu le transformer en un sprinter. Donc, c'est comme si vous demandiez à un coureur de marathon de faire ce que fait Usain Bolt et de gagner un 100 mètres en athlétisme. Un gros défi là, et donc aussi l'une de mes missions c'était ça, et puis l'autre mission aussi c'était d'apporter par ma notoriété de sportif valide la lumière sur le paralympique et sur le handisport en général. Et donc j'ai vraiment pris ça à cœur, parce que quand j'ai découvert ce monde de handisport, je me suis dit mais il y a des choses qui sont faites, mais il y a beaucoup de choses à faire, et il mérite bien plus de médiatisation aussi, parce que c'est important, la médiatisation, pour la reconnaissance, il mérite d'être connu. Et pour l'instant, jusqu'à aujourd'hui, il ne l'était pas forcément. Mais vraiment, à ce qu'on a vu cette année, avec tous les efforts qui ont été faits, c'est en bonne voie.
Désormais, François Pervis se consacre à la culture du bambou sur ses terres familiales de Villiers-Charlemagne, ses conférences en entreprise et ses baptêmes de cyclisme sur piste pour du team building. Donc là aussi, vous l'avez compris, entre collaborateurs d'une entreprise. On fait le point sur l'agenda de ce week-end et nos quelques sélections. Évidemment, l'idée, ce n'est pas d'être exhaustif. Et parmi ce qu'on a pu repérer pour vous, on vous propose de tester le troc à Mêlée du Maine grâce à l'association des Petits Patelins Solidaires. Elle organise son troc échange d'automne. Ce sera demain de 9h à midi au centre social de l'espace mélinois. Vous pouvez venir avec un maximum de 5 objets pour les troquer contre d'autres. De quoi découvrir une nouvelle manière d'échanger. Un film de Charlie Chaplin projeté ce dimanche. Ce sera Le Cirque dans le cadre de l'exposition Guili Guili du Zoom, centre du culture scientifique de Laval. Animation organisée aussi par l'association Cineca 53. Ce sera à 10h à l'avant-scène dimanche. Le pitch du film, dans une fête foraine, Charlot, un pauvre homme affamé, ruine par accident le numéro du prestidigitateur, mais fait un triomphe auprès du public. Le directeur du cirque l'embauche en tant qu'assistant pour faire de lui à son insu le clou du spectacle. Et tout se passe bien jusqu'au jour où un beau funambule arrive. La projection sera suivie de petits ateliers pour apprendre à fabriquer un thaumatrope, réaliser un visage à 1000 émotions ou encore imaginer son théâtre d'ombre. Tarif 5 euros sur inscription au 02 43 49 47 81. Et de 4, puisque ce sera donc le dernier beau dimanche du kiosque proposé à Château-Gontier pour ce mois de septembre, avec non pas un concert mais un spectacle musical, La Course du Vent, de la compagnie Poumtchak, où l'on suivra les aventures de Monsieur de Montgolfier et de Victor, Lucien et Philomène à bord de leur ballon à la découverte du monde, à la découverte des pyramides d'Égypte, des contes des mille et une nuits, et dont ils navigueront aussi dans le sillage des grands explorateurs. Spectacle gratuit à 15h dimanche, promenade de la Résistance. Et puis évidemment, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, visiter les locaux de Château-Gontier, rencontrer l'équipe de la radio et pourquoi pas proposer vos envies, vos idées de chroniques, d'émissions, puisque ce sont nos portes ouvertes demain samedi à Château-Gontier à partir de 9h30 et jusqu'en fin de journée. N'hésitez pas donc à venir faire un tour et nous rencontrer. C'est la fin de notre émission L'Agité du Local pour ce vendredi. À suivre à l'antenne à 20h, il y aura Passe-moi le thème autour des chansons dédiées à l'océan et non pas à la mer, précisent les animateurs, ce qui est très différent. Et puis ne manquez pas demain samedi une émission spéciale en direct du Festival d'Humour Les Embuscades à Cossé-le-Vivien à partir de 15h30 et à 17h demain, ce sera Bud Station. Je vous souhaite un très bon week-end et à lundi.